Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas ? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Chers auditeurs, bienvenue dans Encore heureux. Primo Levi naît à Turin en 1919, dans une famille juive de la moyenne bourgeoisie. Son père est ingénieur et c'est un amoureux des livres. Sa mère est elle aussi une grande lectrice. Elle parle couramment le français et joue du piano. Sa sœur, dont Primo Levi fut proche toute sa vie, naît 2 ans après lui, en 1921. À 6 ans, Primo Levi entre à l'école primaire de Turin. C'est un excellent élève. Mais son état de santé fragile lui impose de longues absences. Et comme il est le plus petit et le plus intelligent de sa classe, en plus d'être le seul juif, il est régulièrement maltraité par ses camarades. En 1933, comme quasiment tous les jeunes Italiens de l'époque, Levi est inscrit dans le mouvement des jeunesses fascistes. Il parvient cependant à éviter les exercices de maniement du fusil en rejoignant la division de ski, ce qui lui permet en hiver de passer ses samedis sur les pentes au-dessus de Turin. Il souffre d'infections pulmonaires à répétition, mais participe malgré cela à des compétitions d'athlétisme clandestines, organisées par des amis dans un stade de sport abandonné. C'est en lisant « Concerning the Nature of Things » de William Henry Bragg que Primo Levi se découvre une vocation de chimiste. Il pense découvrir les secrets du monde grâce à cette science. Et en octobre 1938, il s'inscrit à la faculté de chimie à Turin. En 1939, il commence à pratiquer la randonnée en montagne avec son ami Sandro Del Mastro, futur héros de la lutte partisane. Il passe de nombreux week-ends dans les montagnes. L'exercice physique, le risque, la lutte contre les éléments fournissent à Primo Levi une soupape de décompression par rapport à toutes les frustrations qu'il rencontre dans la vie. S'ajoutent bientôt à ces frustrations les bombardements de Turin, qui commence quelques jours après que l'Italie a déclaré la guerre à la Grande-Bretagne et à la France. S'ajoute aussi le cancer du côlon qui se déclare chez son père et le cloue au lit. Levi obtient son diplôme d'ingénieur chimiste pendant l'été 1941, avec la plus haute mention. Ses travaux portent sur le rayonnement X et l'énergie électrostatique. Cependant, comme son diplôme mentionne que le docteur Primo Levi est de race juive, les lois raciales ne lui permettent pas de trouver d'emploi approprié. En décembre 1941, un ancien membre de la faculté réussit néanmoins à lui obtenir un poste dans une mine d'amiante. Et c'est à cette période que Primo Levi rédige ses 2 premières histoires courtes. En mars 1942, son père meurt. Peu après, il quitte la mine et travaille quelque temps pour une compagnie suisse à Milan. La situation évolue brusquement en septembre 1943 lorsque Mussolini est démis de ses fonctions. Levi rentre à Turin pour découvrir que sa mère et sa sœur se sont réfugiées dans leur maison de campagne située dans les collines entourant la ville. Primo Levi et quelques camarades prennent le chemin des alpages. Son petit détachement de partisans est très inexpérimenté. Ils sont les plus désarmés du Piémont et probablement les plus démunis. Leur groupe est rapidement infiltré par un agent des forces fascistes. 2 camarades sont exécutés par surprise, chacun d'une balle dans la tête. Primo Levi sort de cet épisode démoli et démoralisé. « Désireux de voir tout finir et de finir nous-mêmes », dit-il. lors de sa capture, il admet être un juif plutôt que de s'en tenir au seul fait d'être partisan. Plus tard, il écrira que cette confession était due à la fatigue, mais aussi à une soudaine fierté de ses origines. Primo Levi sera envoyé au camp d'Auschwitz en février 1944, sous le numéro 174517. Il est âgé de 24 ans. Encore heureux, encore heureux. Portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. Primo Levi est l'un des 650 prisonniers juifs italiens transportés à Auschwitz, dans 12 wagons à bestiaux surchargés. De ces 650 prisonniers, une vingtaine seulement reverra l'Italie. Levi attribue sa survie à une concaténation de circonstances, entre autres celle d'avoir été déporté à une période où les Allemands avaient décidé de rallonger un peu la vie des prisonniers et d'arrêter les exécutions arbitraires. Pendant de nombreux mois, dont l'hiver 44, il manque de mourir de froid, de faim, d'épuisement. Sa formation de chimiste, heureusement, lui permet d'éviter les tâches trop exténuantes. Il est affecté à un travail en laboratoire. Et surtout, pendant plusieurs mois, il reçoit une ration de soupe et de pain d'un autre prisonnier italien, un jeune maçon. Au moment de la libération du camp, il a la scarlatine et ce sera sa chance. Levi est abandonné dans l'infirmerie du camp. Les nazis en fuite ne prennent avec eux que les prisonniers qui pouvaient encore marcher. Ceux qui étaient malades, pensait-il, mourraient avant l'arrivée des libérateurs du camp. Levi, lui, parvient à survivre. Il doit cette survie à l'entraide qui se met en place entre un groupe de camarades. Le 27 janvier 1945, alors qu'ils partent enterrer le premier mort de leur chambre, ils sont libérés par l'armée rouge. Primo Levi revient dans la maison familiale où personne ne l'attend. À 26 ans, il est méconnaissable. Vêtu d'un vieil uniforme de l'armée rouge, la malnutrition a bouffi son visage mangé par une barbe hirsute. Si les mois suivants lui permettent de se reconstituer physiquement, de prendre contact avec des survivants et de chercher du travail à Milan, il est traumatisé. Il raconte des histoires d'Auschwitz aux passagers qu'il rencontre dans le train. Il écrit des poèmes. Mais lors de la fête du Nouvel An juif, en 1946, il rencontre Lucia, qui lui propose de lui apprendre à danser. Primo Levi en tombe amoureux. À cette époque, il travaille dans une compagnie de peinture et de vernis située en dehors de Turin. Les communications ferroviaires sont si rudimentaires qu'il doit en semaine loger dans le dortoir de l'usine. Et c'est là qu'il écrit, sans relâche, ce qui deviendra son chef-d'œuvre. Si c'est un homme. Auschwitz est l'expérience fondamentale de sa vie. Il sait qu'il doit la raconter. Il y a appris que tout survivant des camps nazis le doit à la chance, mais aussi à la communication entre les prisonniers. Il écrit sur tous les bouts de papier qui lui tombent sous la main, y compris les tickets de train. Le 22 décembre 1946, le manuscrit est terminé. Lucia l'aide à reformuler son texte dans un style plus fluide. Le livre est publié en 1947 par un éditeur amateur, ardent, antifasciste. Il est tiré à 2500 exemplaires. En avril 1948, Primo Levi attend son premier enfant. Il postule dans une autre entreprise de peinture et de vernis, la Siva. Sa vie s'améliore, mais le passé revient souvent le hanter. Son ami à Auschwitz, qui l'avait aidé à survivre, sombre dans la misère et l'alcoolisme. Il meurt malgré les efforts de Levi pour le tirer de sa déchéance. Autre sujet de détresse, Auschwitz tombe dans l'oubli au lieu de scandaliser le monde. Alors, dans ses voyages professionnels en Allemagne, Primo Levi prend soin de porter des chemises à manches courtes, toujours, laissant paraître sur son avant-bras son matricule d'Auschwitz tatoué. Sur l'oubli, extrait de « Si c'est un homme ». Vous qui vivez en sûreté, dans vos maisons douillettes, vous qui trouvez en rentrant le soir le repas chaud et des visages amis, voyez si c'est un homme, celui qui travaille dans la boue, qui ne connaît pas la paix, qui lutte pour un morceau de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Voyez si elle, c'est une femme, sans cheveux et sans nom, sans plus de force pour se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. Pensez que cela a existé. Je vous commande ces paroles. Gravez-les dans votre cœur. Quand vous êtes à la maison, quand vous partez au loin, quand vous vous couchez, quand vous vous levez, répétez-le à vos enfants. Ou alors, que votre maison s'effondre, que la maladie vous abatte, que ceux que vous avez enfantés détournent le regard de vous. Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux. Primo Levi commence à écrire l'Odyssée de son retour en Italie, après la libération du camp. Le livre, intitulé « La trêve », est publié en 63, presque 16 ans après « Si c'est un homme ». C'est un succès, le livre reçoit un prix, et la notoriété de Primo Levi s'accroît. Mais c'est à cette époque, paradoxalement, qu'il connaît son premier épisode dépressif majeur. Âgé de 43 ans, père de deux enfants, responsable d'un travail important, figure publique effectuant de nombreux voyages, Primo Levi demeure tourmenté par son passé. Et il est mal soigné par la médecine. Les anxiolytiques prescrits sont d'efficacité médiocre, les effets secondaires importants. En 1974, il prend une semi-retraite afin de se consacrer à l'écriture. Au-delà des sujets de l'Holocauste, il revient vers sa passion scientifique avec le système périodique. L'écrivain s'inspire du tableau périodique des éléments de Mendeleïev et il tente un classement des épisodes de sa vie en 21 chapitres, chacun placé sous le signe d'un gaz ou d'un métal. En 78 paraît la clé à molette, qui reçoit le prix Strega. En 84 est publié Maintenant ou jamais. Primo Levi est au sommet de sa célébrité. La trêve est incluse dans le programme scolaire italien. Si c'est un homme, se lit à l'étranger. En 1986 paraît Les naufragés et les rescapés, écrit 40 ans après Auschwitz. Le livre revient sur le camp de concentration. Comme dans ses autres livres, Primo Levi n'émet pas de jugement. Il présente les faits et pose des questions. Parallèlement à ses ouvrages majeurs, Primo Levi a écrit beaucoup d'histoires courtes. Des petits contes surréalistes mettant en scène de nombreux animaux de toutes sortes, des plus petits aux plus grands. Dans une de ses nouvelles, il va même jusqu'à mettre en scène une bactérie intestinale, Escherichia coli, qui l'interviewe en se glissant dans la peau d'un journaliste. Sa passion pour la nature se concrétise également dans la fabrication d'animaux en fil de cuivre, ce fil même pour lequel il s'ingéniait en tant que chimiste à réaliser des peintures isolantes. Sur une photographie prise de lui en 1986, on le voit tenir des toiles d'araignées très denses, ou on le voit avec un masque de hibou, un de ses animaux préférés. Le visage de Levi apparaît derrière le masque, et sa figure entière suscite un trouble, une inquiétante étrangeté. Primo Levi meurt le 11 avril 1987 à la suite d'une chute qu'il fit dans l'escalier intérieur de son immeuble. La plupart de ses biographes vont dans le sens du médecin légiste, qui conclut que Levi s'est suicidé. Cependant, le docteur David Mendel, ami et médecin de Levi, a toujours récusé la thèse du suicide. Pour lui, l'accident ne fait aucun doute, même s'il ne nie pas que Primo Levi traversait une de ses phases dépressives. Le docteur Mendel dispose d'une photo de Primo Levi se tenant debout près de la rampe d'escalier, rampe dont il avait déjà remarqué la dangerosité. Le docteur réunit 1000 petits détails de la vie quotidienne familiale pour appuyer sa thèse, la thèse de l'accident. L'absence de lettre d'adieu de la part d'un être aussi attentif à ses proches est inexplicable. Le moment choisi pour son suicide l'est encore moins. Primo Levi a chuté dans les escaliers alors que sa femme venait de sortir, peu avant 10 heures, faire des courses, comme à l'accoutumée. À son retour, Lucia Levi aurait donc été la première à découvrir le corps de son mari. Le docteur Mendel, qui a fréquenté le couple, ne peut imaginer que Primo Levi ait voulu imposer à son épouse une découverte aussi macabre. Quant à la concierge, venue comme chaque matin lui apporter son courrier à 10 heures, elle l'a trouvé aussi poli et cordial que d'habitude. Dernier argument invoqué par le médecin britannique, le mode de suicide choisi. Pourquoi, se demande-t-il, si Primo Levi voulait se suicider, se serait-il jeté du 3e étage avec tous les risques de se rater et d'en garder des séquelles, alors qu'en tant que chimiste, il disposait de moyens bien plus efficaces? Docteur Mendel, vous étiez non seulement le médecin, mais aussi l'ami de Primo Levi. Quand vous avez appris à la radio la nouvelle de son suicide, vous avez aussitôt pensé, et vous continuez à croire, qu'en réalité, cela avait été un accident. Oui, je crois que Primo Levi est mort à cause des antidépresseurs. Je ne me souviens pas du nom du médicament qu'il prenait, mais les antidépresseurs peuvent provoquer des baisses de tension et des étourdissements. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, j'ai appris que Primo avait un rendez-vous avec un spécialiste dans la semaine qui a suivi sa mort, justement parce qu'il souffrait de maux de tête et de vertiges. Cela confirme mon hypothèse, n'est-ce pas ?
Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Chers auditeurs, merci. Tous les portraits d'écrivains de Encore Heureux sont disponibles sur le site de Radio B, de Émile Cioran à Barbara Cartland, en passant entre autres par Boris Vian, Philippe Roth ou Amélie Nothomb. Je vous souhaite un bel été, à bientôt sur Radio B.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre. C'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort. Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.